RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission Romain Goupil, cinéaste et ancien leader lycéen de mai 68. Il a fait un film avec Danny Cohn-Bendit qui sort ce mois-ci. Mais notre première invitée, je la salue. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Rabault, vous êtes députée du Tarn-et-Garonne et vous êtes présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Alors merci d'être avec nous, on va parler de l'actualité. Donc aujourd'hui 1er mai, fête internationale du travail en France, internationale partout et en France bien sûr. Des manifs à Paris donc perturbés par un millier d'individus cagoulés venus casser, ils ont détruit un restaurant McDonald's à Paris, ils ont mis le feu à des voitures. Est-ce que ça ne nuit pas au combat syndical qui crée dans le fond un amalgame entre lutte sociale et violence ?
Il y a beaucoup de questions à se poser. Savoir déjà pourquoi 1000 casseurs, comment 1000 casseurs ont pu se retrouver là sans que personne, ou en tout cas sans que les forces de police ne les voient pas arriver. C'est boulevard de l'hôpital, il y a la station de métro Gare d'Austerlitz. Il y a quand même des questions à se poser sur la présence d'autant de personnes cagoulées qui arrivent comme ouais. ça en nombre, sans qu'apparemment elles aient été inquiétées pour rejoindre.
Bah vous dites qu'on les allait un peu laisser.
Non, je me pose des questions. Ouais, je trouve que 1000 personnes, ou... 1000 personnes, c'est beaucoup. Voilà. Ouais, ouais. Surtout à cet endroit à Paris. Donc effectivement, pour la journée internationale du travail, comme vous l'avez rappelé, qui vaut
dans
tous les pays.
Mais d'un mot sur ce que vous dites, que vous posez des questions. Soit il y aurait eu une forme de lacune dans le dispositif de sécurité, soit il y aurait une intention de les laisser passer. C'est ce qu'on peut entendre dans vos propos. Vous penchez vers quelle option ?
Je ne penche vers rien du tout parce que j'ai pas l'habitude de commenter des faits pour lesquels je n'ai pas d'informations précises. J'observe juste que à cet endroit, boulevard de l'hôpital à Paris, en face de la gare d'Austerlitz, avoir 1000 personnes qui arrivent, qui vont brûler le McDonald's qui est juste en face, vous n'avez pas 1000 personnes qui arrivent comme ça en 30 secondes sans que ça se voit. Voilà. Donc je me pose des questions.
Ça peut aussi arranger peut-être les syndicats d'une certaine façon. Donc c'est la question contraire que je vous posais dans un premier temps.
Je vois pas
dans le sens
serait,
où on ne verra pas vraiment les chiffres de cette manifestation qui n'est pas une grande réussite.
Je ne crois pas que les syndicats aient un intérêt à ce qu'une manifestation, même si effectivement il n'y a pas eu l'affluence qui était souhaitée, soit entachée de violence. Je ne crois pas du tout que ce soit l'intérêt des syndicats.
On va peut-être en parler justement des syndicats, c'est le jour ou jamais. Donc en France, les syndicats ne sont représentés que par 8% des salariés, l'un des taux les plus faibles d'Europe. C'est paradoxal dans le fond quand on dit que la France est montrée toujours du doigt pour être le pays dans lequel il y a tout le temps des grèves. Est-ce que c'est pas un paradoxe ?
On a alors c'est pas d'aujourd'hui. Hein,
non, bien sûr.
Nouveau, mais on a une difficulté à avoir un vrai dialogue social dans l'entreprise. On voit ce qui se passe à la SNCF. Bon, les négociations sont rompues, mais il faut dire quand même que le gouvernement ne les aide pas trop à négocier puisqu'il fait voter une loi sur la réforme ferroviaire avant que la négociation ait été conduite, menée, ou en tout cas qu'elle ait été menée jusqu'à son terme. Donc là-dessus, il y a des responsabilités qui sont largement partagées. Le gouvernement et Emmanuel Macron ne peuvent pas se revendiquer européen d'un côté et refuser ce qu'est cette social-démocratie qui a été très forte en Europe et qui veut dire qu'on négocie. Négocie, c'est arriver à trouver une position de compromis. C'est pas dire, c'est apprendre à laisser sur ce que je veux. Ça, il y a une vraie faiblesse au niveau du gouvernement dans cette capacité à porter la négociation, en tout cas à la faire vivre.
Les autres, vous pensez discuter plus avec les syndicats
que ne le fait en 2013, quand il y a eu l'ANI qui a été portée, qui a été votée par le Parlement a voté le résultat de la négociation. À voter le résultat de la négociation.
Oui, mais quand vous dites que ce n'est pas à prendre ou à laisser, ça vaut aussi pour les syndicats, qui parfois arrivent dans des positions très rigides, en disant c'est le retrait de la loi ou rien.
Il y a certains syndicats, pas tous.
Non, je dis
tous. Certains acceptent la négociation, certains acceptent de faire un pas pour qu'on puisse sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Mais quand vous êtes le gouvernement, que vous demandez au syndicat de négocier et que dans le même temps, vous faites passer une loi qui transforme la SNCF, qui prévoit un certain nombre d'ordonnances pour avancer, vous pouvez quand même pas dire que c'est la meilleure façon d'engager le dialogue social. En tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire.
Est-ce qu'il faudrait un syndicalisme plus consensuel? C'est-à-dire que en Allemagne, hein, c'est vrai qu'on cite à toutes les sauces l'Allemagne.
C'est beaucoup l'Allemagne.
C'est vrai, avec ses à tort ou à raison d'ailleurs. Patrons et syndicats se mettent d'accord sans que l'État n'y fourre jamais son nez. Et c'est une forme. Est-ce que c'est d'abord leur culture, mais cette maturité-là, est-ce qu'elle pourrait.
Elle nous fait un peu défaut en France.
Elle fait défaut vrai. En France, ouais.
Elle fait. Ça vient de. Il y a sans doute plusieurs facteurs. Moi j'en vois un, je fais partie de ceux qui dans les propositions qui ont pu être émises seraient qu'il puisse y avoir une adhésion quasi obligatoire à un syndicat, quel que soit le syndicat de chacun, de son choix, mais qu'on puisse avoir une vraie représentativité de l'ensemble des salariés, qu'ils se sentent impliqués dans ce débat et dans la négociation qui a lieu. En Allemagne, il est exact qu'il y a beaucoup plus de salariés qui sont syndiqués qu'en France. Il n'y a pas cette défiance qui existe entre, d'un côté, les employeurs et, de l'autre côté, les employés. C'est-à-dire qu'il y a une culture du compromis. C'est-à-dire qu'une compromis, on n'a pas forcément raison sur tout, mais au moins on arrive à une position de compromis.
Oui, l'État ne vient pas siffler la fin de la récré.
Mais là, l'État ne vient pas siffler la fin de la récré. Il siffle
en général,
la fin de la récré avant même qu'elle ait commencé. Ouais. Encore une fois, sur la SNCF, c'est vraiment le contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire. C'est on fait passer un texte à l'Assemblée nationale où il n'y a quasiment que des ordonnances qui sont inscrites dans les articles. Et après, on s'étonne que les syndicats disent « mais enfin quand même, vous nous prenez un peu pour... Donc effectivement, la négociation aujourd'hui est bloquée et je pense que le gouvernement emporte l'essentiel de la responsabilité.
Mais est-ce qu'en France, le problème du syndicalisme, ça n'est pas aussi que les syndicats pensent d'abord à défendre leurs propres intérêts, au fond, leur boutique, leur chapelle, leur pouvoir, leur influence, bien avant les intérêts des salariés ?
Je ne crois pas que, quand vous regardez les différents syndicats qui existent en France, bon, on avait certains qui ont effectivement des positions peut-être plus radicales que d'autres. Vous prenez la CFDT ou FO, je ne crois pas qu'ils se situent dans cette démarche, la démarche que vous évoquez. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il faut quand même l'exemple le plus emblématique qui existe actuellement, c'est la SNCF. Quand vous dites à des agents de la SNCF, le problème c'est vous. Le problème, c'est votre statut. Si les trains n'arrivent pas à l'heure, le problème, c'est vous.
Non, mais je disais, c'est
franchement,
parce que
franchement,
vous voulez bien
comment
le
voulez-vous
manque
négocier
d'unité syndicale aujourd'hui,
comment
par
voulez-vous
exemple
négocier sur ces bases-là? C'est impossible.
L'unité syndicale aujourd'hui, elle fait défaut. Tous les leaders de centrales syndicales le disent. Oui, il faudrait l'unité, mais on n'y arrive pas. En revanche, à la base, ça se fait. C'est pour ça que je vous demande si, au fond, il n'y a pas quand même mise en avant des querelles de chapelle. Chacun défend son petit précaré et sa zone d'influence.
Au niveau, ce que vous dites, au niveau de la base, dans les entreprises, vous arrivez entre les différentes forces syndicales.
Oui, ce que je dis, notamment, ça se fait en ce moment à la SNCF, oui.
À trouver des accords, à trouver des positions communes et à trouver des revendications communes, qui peuvent être négociées avec les employeurs. Encore une fois, si vous estimez qu'à la tête, on perd peut-être de cet esprit positif pour pouvoir avancer, mais moi je crois que vraiment une des solutions serait qu'il y ait beaucoup plus de salariés qui puissent être syndiqués, qui aient envie de se syndiquer. Voilà.
L'Assemblée nationale est en vacances. Vous ne l'êtes pas, puisque vous sillonnez votre circonscription. Vous dites que vous le faites souvent. Je suis pas sûre que tous les députés le fassent. Et donc vous allez à la rencontre des Français. Et dans le fond, qu'est-ce qui remonte? On voit une colère. Alors on le voit chez les syndicats, on le voit chez les étudiants, dans les facs, on le voit un peu partout. Qu'est-ce qui remonte de chez vous?
Je ne sais pas ce que font. Je sais que beaucoup de mes collègues le font. Je sais que par rapport à La République En Marche, nous avons parfois une différence de philosophie. Nous estimons, en tout cas au Parti Socialiste, que la circonscription, le terrain, est quelque chose de très important parce que c'est le pouls, c'est le pouls de la France.
Oui, mais pardon, mais il y a combien de départements dans votre...
Il y a deux circonscriptions dans mon département.
Donc ça fait combien de...
63 communes, c'est ça.
63 communes, voilà. Il y a 63
beaucoup.
Communes. Oui, c'est
voilà,
beaucoup.
C'est ça.
Oui, non, mais c'est beaucoup, mais c'est extrêmement important. Encore une fois, quand on est représentant, quand on est député, on se veut représentant du peuple, et il est hyper important de garder ce contact permanent, de pas avoir de filtre, de garder ce contact permanent. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance à ces visites dans les communes de ma circonscription.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent?
Certaines sont très rurales. Alors, il y a deux choses qui reviennent beaucoup. Je suis dans un département où il y a plus de retraités en proportion que dans le reste de la France. Donc la hausse de la CSG a affecté de manière extrêmement importante les retraités, puisque certains vont perdre entre 200 et 400 euros de pouvoir d'achat sur une année. Mmh. Et puis le deuxième sujet qui rentre en ligne de compte, c'est la hausse de la fiscalité écologique. Encore une fois, quand vous habitez Paris, vous achetez un pass Navigo. Si vous êtes salarié, votre employeur vous en rembourse la moitié. Donc ça vous coûte entre 36 et 37 euros par mois. Quand vous habitez à la campagne, qu'il faut que vous alliez travailler à 17 km de chez vous, la facture énergétique, la facture de carburant, elle évolue entre 220 et 250 euros par mois. La hausse qui a été appliquée de la fiscalité, c'est la plus forte hausse sur la fiscalité écologique jamais enregistrée. Jamais enregistrée, c'est pour ça que je surnomme le ministre Hulot, le ministre des taxes écologiques, avant d'être ministre du développement durable. Et ça, ça a un impact extrêmement important, puisque ça s'applique quels que soient les revenus des Français qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler, pour aller faire leurs courses.
Donc quand Emmanuel Macron déclare, il y a quelque temps, lors d'une interview à BFM et Mediapart, qu'il n'y aurait pas de nouvel impôts, en réalité, c'est pas vrai.
En réalité, c'est faux. Ce qui a été voté en décembre dernier, par la majorité en place, c'est une trajectoire de hausse de la fiscalité écologique. Si vous prenez un ménage, deux parents, deux enfants, qui vit à la campagne, qui se chauffe au fioul domestique, parce qu'il n'y a pas de réseau de gaz, etc., la hausse de la fiscalité écologique hors TVA va lui coûter 145 euros de plus en 2018. En 2022, ça va lui coûter 576 euros de plus. C'est déjà voté. Cette trajectoire, elle a déjà été votée par la majorité de La République En Marche. Donc oui, c'est significatif, ça ne dépend pas du revenu. C'est une fiscalité qui s'applique quel que soit le salaire que vous gagnez tous les mois.
Pour s'attarder un instant sur les retraités que vous rencontrez, parce qu'il y a dans le discours de la majorité et dans la bouche du président de la République comme l'idée qu'on a demandé un petit effort, mais pas aux plus modestes des retraités. Ceux que vous rencontrez, ce qui les gêne au fond dans cette augmentation de la CSG, est-ce que c'est de l'ordre du symbole, pourquoi nous, ou est-ce que véritablement vous rencontrez des gens qui sont confrontés à de réels problèmes économiques en raison de cette augmentation ?
Le seuil à partir duquel se déclenche la hausse de la CSG est...
C'est 1200 euros par mois.
1280. Oui. Donc quand on vous enlève 200 euros ou 250 ou 300 euros sur une année, c'est l'équivalent de votre facture d'eau annuelle. Oui. Donc oui, ça se ressent pour les retraités. Cette hausse vient en plus de la hausse de la fiscalité écologique, qui va vous coûter entre 145 et 180 euros sur l'année. Donc oui, à ce niveau-là, c'est réellement un problème de pouvoir d'achat. J'ajoute que quand vous êtes marié, moi je vois des femmes retraitées qui ont 700 euros par mois. Elles ont un conjoint qui a aussi une retraite, un peu plus importante que la leur, ce qui fait qu'elles aussi se sont vues appliquer la hausse de la CSG. Mmh. Certaines ont perdu 30 euros sur les 700 euros qu'elles perçoivent tous les mois. Tout simplement parce que leur conjoint a une retraite qui est supérieure. Donc tout ça, oui, ça a un impact qui n'est pas que imaginaire pour les retraités. C'est un impact très significatif. C'est un impact aussi sur la macroéconomie d'un département. Quand vous avez une proportion de retraités plus élevée qu'ailleurs, forcément, dans mon département, ça va représenter entre 7 et 8 millions d'euros en moins, qui vont aller en moins chez les commerçants, qui vont aller en moins chez les artisans locaux. Donc ça, c'est une réalité qui ne peut pas être effacé juste par un merci, comme l'a dit le président de la République.
Vous avez succédé à Olivier Faure, au groupe à l'Assemblée nationale, car il est le nouveau patron du Parti socialiste. Est-ce que c'est enthousiasmant, Olivier Faure ?
Ou est-ce que le groupe ou le...
Non, Olivier Faure.
Ah bah écoutez, moi j'ai soutenu Olivier Faure depuis le début, lorsqu'il a entamé sa campagne interne pour être premier secrétaire du Parti Socialiste. Personne ne fait abstraction du fait que nous avons fini à 6% à l'élection présidentielle et qu'effectivement la tâche est immense pour qu'on retrouve notre capacité dans le débat public. Donc moi je crois qu'Olivier a à la fois cette force d'incarner le renouveau, une nouvelle figure, en tout cas pour les Français, même si il est depuis plusieurs années au Parti Socialiste. Et surtout, il a cette capacité à faire travailler, vous savez que chez nous, au sein du Parti Socialiste, ça peut être compliqué, des personnalités qui peuvent avoir des idées, des caractères différents. Ça n'a l'air de rien.
Il maîtrise l'art de la synthèse, comme d'aucuns.
En tout cas, au sein du groupe socialiste, où, vous savez, nous avions Luc Carvounas, qui sont toujours là d'ailleurs, Stéphane Le Foll, enfin, en tout cas, des personnalités fortes, vous n'avez pas entendu de couac depuis juillet dernier au sein du groupe socialiste.
Alors, en passant, vous avez
dit. Ce qui nous est arrivé.
Vous avez des groupes socialistes, vous voulez abandonner cette appellation qui prévalait depuis quelque temps, Nouvelle Gauche à l'Assemblée, pour le réappeler. Mais ça veut dire quoi, cette manière de dire le Parti Socialiste a de l'avenir?
Alors, un, je pense que le Parti Socialiste a de l'avenir. Deux, pour l'instant, nous nous appelons Groupe Nouvelle Gauche. On verra si on décide de changer de nom.
Mais vous y êtes favorable.
Mais moi, j'y suis favorable. Je l'ai dit avant de me faire élire présidente de ce groupe. Donc, je ne mentirai pas à mes collègues. Je pense qu'il faut qu'il y ait un alignement entre les groupes, le nom du parti, le nom du groupe au Sénat. Voilà.
Mais c'est quoi? Parce que, dans le fond, l'idéal du socialisme... Voilà, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui considéraient, comme Manuel Valls, que le socialisme pouvait gouverner. D'autres considéraient que gouverner, c'était trahir. Comment trouver aujourd'hui cette synthèse? Quelle forme de nouveau socialisme vous voulez, non pas inventer, mais en tout cas perdurer? Vous avez perdu des électeurs. Il y a des inégalités partout dans le monde, beaucoup en France. Et le PS est dans les choux. C'est assez paradoxal. Comment renouer avec ces électeurs? Comment renouer avec, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le socialisme, une nouvelle gauche, une troisième voie, une quatrième voie?
Alors, je ne sais pas si c'est la troisième, la quatrième voie.
Alors, on serait plutôt la quatrième.
Mais peut-être la quatrième, oui, peut-être la quatrième. Mais toujours est-il que sur les deux visions que vous opposez entre celle de Manuel Valls et puis... je crois qu'on peut parfaitement... Nous voulons incarner la gauche de gouvernement, c'est-à-dire celle qui est capable de porter un discours qui soit crédible. On ne va pas... vendre des choses qui ne se passeront pas. Quand Emmanuel Valls part un peu sur une autre direction, je crois que la trahison que certains ont perçue comme telle vient du fait que on fait des choses qui n'étaient pas annoncées auparavant. Ça, c'est à mon avis rédhibitoire. Il faut être clair.
Comme quoi, le CICE par exemple, ou
la déchéance de nationalité.
Oui, mais elle n'a pas été faite, ça. Donc,
non, bon, mais elle n'a pas été faite, mais enfin, elle a largement fracturé le Parti Socialiste, largement.
Mmh. Il y avait les frondeurs avant, quand même.
Puisque bon. Vous évoquez François Hollande, en fait, on le voit et on l'entend beaucoup ces derniers temps pour faire la promotion de son livre. Il semble d'ailleurs y prendre un véritable plaisir dans ses rencontres avec les gens. Et il n'est pas avare de petites phrases, voire même de vacheries pure et simple, à l'égard notamment d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce comportement d'ancien président de la République?
Rien du tout.
Oh, vraiment?
Oui, vraiment.
Alors, si je sais pas, si je vous posais la question autrement.
J'entends ce qui a été dit sur Emmanuel Macron. Bon, il se trouve que.
Ça veut dire qu'il ne vous intéresse plus, disparu de votre horizon totalement, François Hollande?
Non, mais je crois que le Parti Socialiste a, vu ce qui nous est arrivé, a intérêt à se projeter dans l'avenir. Les petites phrases.
Et peut-être que lui-même se projette dans l'avenir.
Mais peut-être aussi. Mais en tout cas, le faire avec des petites phrases sur les uns et sur les autres ne me paraît pas être la meilleure méthode de se projeter dans l'avenir.
Et sur la notion, lorsqu'il dit non, Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, mais il est le président des très riches. Est-ce que ça, c'est pertinent?
Emmanuel Macron a accordé des baisses d'impôts aux 1% des Français les plus aisés.
Donc il est le président des très riches?
Donc. On peut la qualifier comme telle, comme l'a dit François Hollande, peut-être le président des très riches.
Comme François Hollande peut encore voir juste.
Attendez, on aura pas échappé ça aussi sur les entreprises qui faisaient un cadeau au MEDEF.
Il ne vous aura pas échappé que nous dénoncions le fait, dans un contre-projet qui était du mois d'octobre, que les baisses d'impôts bénéficiaient aux 1% des Français les plus aisés. Et nous n'avions pas attendu pour cela François Hollande.
Valérie Rabault, vous aviez quand même critiqué le CICE en disant que c'était un cadeau au MEDEF, cadeau aux entreprises.
Alors, il y a deux choses. Au Parti Socialiste...
On nous reste 30 secondes.
Oui. Qu'il y ait un soutien aux entreprises, je pense que la grande majorité du Parti Socialiste était d'accord. Oui. Ce que certains auraient voulu au sein du Parti Socialiste, c'est qu'il y ait des conditions à l'octroi de ce soutien aux entreprises.
Voilà. Merci beaucoup.
C'était pas tout à fait...
Merci.
Un refus Valérie total Arbeau. Du CIC.
C'est la fin de cette première partie de l'émission. On se retrouve dans un instant avec notre deuxième invité, Romain Goupil. À tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons Romain Goupil. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cinéaste, vous avez été révolutionnaire trotskiste, ex-leader lycéen de mai 68. Vous co-signez avec Danny Cohn-Bendit un film de plus de 2 heures, La Traversée, qui sera diffusé en mai sur France 5, le combien ?
Le 21 mai à 20h45.
Et le film sera également présenté au Festival de Cannes. Alors, 50 ans après 68, vous allez ensemble à la rencontre de la France, celle d'en haut, d'en bas, des usines qui ont fermé, des militants associatifs, des banlieues, celles où a vécu Mohamed Merah, avec les migrants ou les militants du Front National. Vous interrogez Robert Ménard, le maire de Béziers, et vous tentez de comprendre ce qui lui est arrivé avec son virage à l'extrême droite. Et soudain, un spectateur surgit du cadre, Emmanuel Macron, dans une scène incroyable, inattendue et assez désopilante, il faut le dire. Car 50 ans après, vous êtes devenu aussi macroniste, comme Henri Weber ou d'autres. Bref, en tout cas, c'est un film inclassable. Vous tournez aussi vos engueulades avec Cohn-Bendit. Donc on va en parler, mais on va aussi parler de ce 1er mai qui dégénère. Et vous êtes, c'est vrai, il y a 50 ans, vous étiez un pro de la manif, mais peut-être pas les mêmes manifs. Là, on a vu les casseurs, des images assez impressionnantes à Paris, de voitures qui brûlent et de types en noir qui lancent des pavés qui volent une fois de plus. Ça vous évoque quoi ? En tout cas, pas mai 68, j'imagine.
Ça évoque pas du tout 68, où là, l'idée, c'était que pour libérer les camarades, par solidarité, descendaient des milliers de lycéens, des milliers d'étudiants pour obtenir l'ouverture de la Sorbonne et plutôt une situation qui était à l'époque complètement crispée par le pouvoir, par la police. Là, les manifestations, quand je les vois, je me dis, mais oui, c'est une des composantes de l'extrême gauche qui, depuis toujours, rêve de la stratégie de tension, rêve d'un mort, rêve d'un drame, pour pouvoir mobiliser plus en disant, voyez bien ce qu'on vous dit depuis des années de manif en manif, la police, c'est les nazis. Donc, il faut qu'ils en fassent la démonstration.
Ils n'en sont pas sortis de ce...
Non, mais c'est une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie de tension. Une fois que vous dites, la social-démocratie, c'est impossible, le réformisme, c'est impossible, la négociation, c'est impossible, les syndicats sont des traîtres, tous ceux qui manifestent pacifiquement font des manifestations pacifiques. On est en guerre, mais vous ne le savez pas. On est en guerre contre le capitaliste est en guerre contre les travailleurs, et nous, on va mettre simplement à plat cette situation pour les faire apparaître dans leur vrai visage. Des images, ils souhaitent sans arrêt aller à l'affrontement, mais c'est pas nouveau. C'est depuis tout le temps, il y a toujours dans une partie de l'extrême gauche, ceux qui souhaitent accélérer l'histoire et pour que...
Mélenchon, il veut ça, par exemple?
Mélenchon, et ben c'est là toute l'ambiguïté des manifestants et tout. On a vu ça pendant les manifestations sur El Khomri. Vous aviez Madame Rabault qui était là, mais... Qu'est-ce qu'elle laisse entendre ? Qu'il y aurait une manipulation, que le ministère de l'Intérieur laisserait faire ça pour disqualifier les syndicats. Mais que ne s'est-il pas passé pendant la loi El Khomri avec le 49-3 et toutes ces manifestations où Mélenchon laissait entendre la même chose ? Laissait entendre que Cazeneuve laissait faire les casseurs pour que la police coupe les cortèges syndicaux. C'est absurde. Il y a quelque chose d'absurde, en fait, de pas dénoncer ces groupes-là, que Mélenchon ne les dénonce pas, que la CGT ne les dénonce pas clairement. On laisse ou ça laisse entendre avec police partout, justice nulle part, ce que scandait tout le cortège, là, pour le coup. Il y a quelque chose où on laisse entendre, quand même, que cette fraction cagoulée aurait quand même raison peut-être d'attaquer ou serait l'avant-garde de ces syndicats.
Mais Romain Goupil, en mai 68, vous ne vouliez pas seulement la libération de vos camarades, vous vouliez aussi changer le monde. Et cette extrême-gauche aujourd'hui qui manifeste très violemment, elle veut aussi changer le monde. Est-ce que ça n'est pas là qu'il y a quand même un point de rencontre, point commun?
C'est ce que je dis. Ça a toujours existé. La différence, c'est que nous, on voulait changer le monde en s'appuyant sur une grève générale qu'on voulait, qu'on désirait insurrectionnel pour prendre le pouvoir, bien entendu. Là, c'est une minorité qui pense, qui détiennent la vérité et qui vont montrer l'exemple, c'est-à-dire une avant-garde de type violente qui va faire la démonstration qu'on n'est pas dans un système démocratique, que la démocratie, c'est une illusion, que le système dans lequel on est, c'est simplement la marchandisation du monde et qu'il faut absolument faire apparaître les vraies fractures, à faire apparaître à travers la répression. Comme c'est une répression obligatoirement, à un moment, faut utiliser les matraques ou disperser, et ben là, vous voyez bien leur vrai visage. C'est sert à ça, les groupes comme ça, cagoulés. Mais ils sont pas du tout reliés avec quelque implantation. Ça les intéresse pas du tout d'aller distribuer des tracts, d'aller dans les usines, d'aller dans les facs et de regrouper
Des militants. Pour nous aider peut-être à mieux comprendre, au fond, votre position, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « mai 68 a gagné contre nous »
Alors, le mai 68, par rapport à une France issue du 19e siècle telle qu'elle était, c'est-à-dire avec la non-mixité, avec ce système vertical, patriarcal, paternaliste, bien entendu que tous les milliers de mômes et les milliers de jeunes et les millions de travailleurs qui se sont mis en grève, ils ont gagné contre l'idée qu'on avait, c'est ça qui est complètement paradoxal. Nous, notre idée, c'était de reproduire 1917, c'est-à-dire de refaire une grève insurrectionnelle, d'aboutir à la dictature du prolétariat. Pour faire très très court, c'est comme ça qu'on était formés. J'appartenais à ce qu'on appelle les avant-gardes militarisées léninistes, c'est-à-dire bolcheviques, pour prendre le pouvoir. Donc nous, c'était nos stratégies. Heureusement,
le grand soir,
les milliers de lycéens, les centaines de milliers d'étudiants qui sont descendus dans la rue et toute la population,
très grande partie. Vous ne voyez pas les choses comme vous.
Pas du tout. Ils étaient simplement pour que cette société soit débloquée.
Déverrouillée.
Qu'il y ait maintenant un respect par rapport à l'avortement, qui était tout à fait interdit. Qu'il y ait un respect par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes. La grande, grande victoire, mais immense.
C'est ça
victoire,
l'héritage de 68. C'est 69. Qu'on déverrouille cette
69
société.
Et c'est les mouvements féministes. Et chose que même nous, alors là, pour le coup, on ne comprenait pas comme petits leaders autoproclamés, machistes, sexistes. On ne comprenait rien
et
du tout.
Et dans le fond, un peu bourgeois.
C'est même pas le fait d'être bourgeois, c'est le fait d'être de reproduire ce qu'on avait vu, ce qu'on avait appris des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire une non-considération absolue de la part de la moitié de la part de l'humanité, de la moitié de toutes les femmes. C'est-à-dire on leur disait toujours allez, faites-nous confiance, vous verrez plus tard, on s'occupera des problèmes. Et elles ont dit en 69, mais c'est maintenant qu'on veut voir nos problèmes résolus, maintenant, ici et maintenant. C'est elles qui sont les vrais révolutionnaires de 68.
Alors, dans une tribune, Henri Weber, que vous connaissez bien, cite le cinéaste Chris Marker, dans les années 60, le fond de l'air était rouge. Weber ajoute, c'était l'heure des brasiers, des baby boomers. Qui sont venus massivement en politique par indignation et révolte contre les exactions de l'impérialisme. Mais aujourd'hui, dans le fond, l'air est brun. Le fond de l'air est brun avec les populismes. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant et dans le fond, on ne va pas contre ça.
La comparaison entre les années 60 et puis les coups d'État, je t'échange une saloperie à l'Est, c'est-à-dire je laisse réprimer le printemps de Prague et puis moi, je peux faire Pinochet de mon côté tranquillement. Ils s'échangeaient d'un côté comme de l'autre en disant on respecte l'équilibre de la terreur entre les deux blocs, impérialistes et blocs socialistes. Là, c'est plus du tout la même situation. On a une perspective magnifique, une utopie concrète qui serait l'Europe et la souveraineté européenne. Et des groupes et des organisations qui se crispent au nom de l'identité culturelle, d'une vision identitaire. On ne veut que rien bouge, on veut rester sur notre souveraineté, c'est-à-dire rester en tant que pays. On considère que, par exemple, que la France pourrait tout à fait faire face ou pièce toute seule à Google, à Amazon, enfin des trucs complètement absurde, c'est des raisonnements d'un autre âge, c'est des raisonnements à l'achevènement, c'est des raisonnements d'une France fermée, d'un autre siècle. Quand Mélenchon nous dit non à la souveraineté européenne, il dit non à l'avenir, non aux jeunes, non à cette utopie incroyable qui serait enfin de respecter ce contrat magnifique qui était le contrat européen. On dit, il s'est fait sur un triple contrat. Non au fascisme, non au totalitarisme, non au colonialisme. Donc cet engagement de l'Europe, c'est quelque chose qui me porte bien sûr énormément.
Mais au Royaume-Uni, là, il y a le Brexit. C'est le peuple qui a décidé et pour l'instant, les dirigeants respectent la volonté du peuple. D'aucuns considèrent que la façon dont on a fait revoter ou on a fait passer par le Congrès en France un vote non à l'Europe est allé contre l'avis du peuple. Est-ce qu'en la matière, en matière de souveraineté, en matière d'Europe, je sais que vous n'aimez pas le mot souveraineté, hein, mais enfin bon, je l'emploie à dessein, est-ce que le peuple ne doit pas être souverain, quoi qu'il arrive ?
Ben non, il y a plein d'exemples, de contre-exemples, où à un moment donné, c'est sûr que si on remettait un référendum et cette façon de gouverner, démocratie directe, donc on remettait la peine de mort au vote en France, je suis pas du tout sûr, même vu le climat avec le Front National et ce qu'on sent comme... climat, par exemple, si vous dites aujourd'hui, par rapport à ce qu'on connaît tous de cet horrible fait divers sur Angélique, si vous dites, est-ce que vous êtes pour la peine de mort pour les violeurs d'enfants?
Oui, t'es à peu près sûr que la réponse sera oui.
Et oui, et alors est-ce que c'est pourtant pour autant juste? Bien sûr que non. Il y a un moment donné, il faut pouvoir s'exprimer, pouvoir discuter. Et dans la façon dont le vote se passe, effectivement, il y a des votes majoritaires contre lesquels je suis. Je suis absolument contre le vote qu'il y a eu pour le non à la Constitution européenne. Je considérais que la Constitution européenne était une avancée immense. Donc pour moi, le vote contre la Constitution européenne, il n'y a pas de nom de gauche. Il n'y a un nom que de droite ou d'extrême droite. Il n'y a pas eu, pour moi, de nom de gauche. Je ne comprends pas toujours ce qui s'est passé en 2005, comment la France, pays des droits de l'homme, a pu arrêter cette incroyable idée, cette utopie qui se mettait en place. C'est pour ça, ça explique la façon dont on a pu retrouver Macron au début de la campagne, qui était le seul candidat ses drapeaux européens et avançant sur l'idée de la souveraineté européenne.
Alors on va en parler de Macron, mais on va parler de votre film d'abord. Donc La Traversée, c'est un film, je vous le disais, étonnant, à la fois sérieux et déjanté, sur une musique de Rodolphe Burger qui donne l'impression d'un road movie. Alors le journaliste du Monde qui fait un portrait de vous et qui parle du film dit, on dirait deux vieux du Muppet Show au balcon de l'histoire. Donc ce film, c'est 50 ans après. Qu'est-ce qui dans le fond a changé 50 ans après 68, et ce qui n'a pas changé?
Déjà, le fait qu'on fasse ce film de cette façon, c'est-à-dire pas du tout de manière nostalgique, pas du tout en c'est prenant vrai. Des archives, en disant, nous, ce qu'on voudrait comprendre, c'est la France de maintenant. Comment comprendre la France de maintenant?
Alors
là, c'est quand même, l'ambition est grande. On discute au tout début du film, il dit, Romain, c'est une France angoissée, c'est une France malade. On est au moment au tout début de tous ces sondages sur Marine Le Pen, Macron, Mélenchon, on ne sait pas trop. Et moi, je dis non. Je suis plus sur la position de Solers en disant c'est une France moisie. Il y a quelque chose qui est complètement bloqué dans ce pays. Il dit, OK, on va pas décider tous les deux vieux, dans le train. On prend une caméra et on va se balader. On va rencontrer les gens. C'est-à-dire aller discuter, écouter surtout. Et pas du tout essayer d'imposer un point de vue quel qu'il soit.
Vous en retenez quoi, vous? Alors
maintenant, puisque moi j'y vais quand même à rebours. En disant, waouh, France moisie, tous ces votes Front National, les gens qui s'abstiennent, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Donc, avec la caméra, j'y vais un peu à rebours. Et, alors, là, c'est là où on peut se poser la question. Est-ce que c'est le caractère de Dany? Est-ce que c'est ses taches de rousseur encore, ou ses yeux pétillants, ou le fait que les gens ont envie de discuter avec lui? Ils s'en fichent complètement de la caméra, mais s'en fichent comme j'ai jamais vu, moi. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de caméra. C'est-à-dire, ils discutent, il y a une empathie qui se passe avec Dany, qui fait que les gens parlent, discutent, et que là, on comprend qu'il y a des problèmes, on comprend qu'ils sont inquiets, mais qu'ils sont toujours en train d'essayer de chercher une solution, d'en trouver, pour ce qui est de la SCOP à Carcassonne, pour ce qui est des deux jeunes avec qui n'ont pas encore de travail, mais la façon dont elles parlent du voile, il y a plein...
Ça a changé votre regard ? C'est-à-dire que vous dites vous y êtes allé... Non, mais parce que vous dites, moi, la France était moisie, dans mon idée. Donc, vous pouviez vous attendre à rencontrer des gens moisis. Non, mais si je comprends bien dans votre esprit, un électeur du Front National, un sympathisant du Front National, il est moisi. Est-ce qu'en allant à la rencontre, est-ce que votre regard a changé?
Il a complètement changé grâce à Dany, qui dit, OK, on va discuter avec 25 du Front National. Il y a un dîner avec les 25. Mais qu'est-ce qui se passe? Il les écoute. Il n'y a pas du tout d'insulte. Il est déjà invité.
On accepte. Et eux, ce livre, ils expliquent pourquoi ils votent le Front National.
Et à un moment donné, Dany craque, puisqu'il ne peut pas supporter certains discours d'exclusion, de xénophobie. Il dit, mais toi, depuis tout à l'heure, je t'écoute, tu n'arrêtes pas de dire des choses mauvaises. Tu n'as jamais rencontré un jeune. Tu n'as jamais un mot pour les jeunes et tout. Mais tu vas finir par avoir un ulcère. C'est-à-dire qu'il a écouté et il lui dit, mais tu n'as que des paroles de bile. Et ça fait rire tout le monde. Tous les autres membres, électeurs ou pas, ou sympathisants du Front National, rigolent. Effectivement, cette façon de voir en fonction des passions tristes, en fonction de tout ce qui ne va pas. Et la grande différence, c'est que Dany, par la façon dont il écoute, par la malice, par le sourire et par les gens qu'on rencontre, hein, les accidents ou les choses provoquées, il y a quelque chose qui se dégage. Alors, cela dit, on est incroyablement aidé par le pays.
Oui.
Il y a des paysages, mon Dieu, des lumières, des arbres, des animaux, un plaisir à filmer, un plaisir à montrer ces images complètement magnifiques. Moi, j'ai changé. Effectivement, j'ai changé entre une position qui était très, disons, a priori, très idéologique, en disant ah, c'est pas possible.
Mais attention, parce qu'un amour de la France et de ses paysages, ça peut conduire au souverainisme.
Non, mais c'est étonnant. Parce que ça peut conduire à quelque chose en disant à quelque chose de minéral, c'est-à-dire lié avec la terre, la mousse, tout, et en disant ah là là, vous n'êtes même pas à la hauteur de ce pays magnifique. On a des privilèges magnifiques. On a le fait de pas mourir de faim, de ça va les hôpitaux, ça va la SNCF, ça va
Romain,
le train et tout. On n'est pas à hauteur encore de ce pays qui est magnifique.
Romain, je voudrais pas qu'on se quitte sans vous racontiez ces cours, si vous pouvez, cette scène fabuleuse avec Emmanuel Macron. En fait, vous filmez Dany, comme Dany, vous engueulez avec lui sur le fait, eh bon, alors Macron, on le fait où? Est-ce qu'on le fait à l'Élysée? Mais non, pas à l'Élysée, c'est la solitude. Enfin, lui, vous considérez qu'il ne faut pas aller à l'Élysée, et lui, il dit, mais si, c'est la réalité.
C'est une vraie donc, engueulade hors film qu'on a eue. On ne s'est pas fâché sur 15 000 bornes et 50 rencontres et 6 mois de tournage. Il n'y a rien eu, que des fous rires, des amusements, des blagues. Et un dîner à Nantes, on s'engueule au point que tout, les restos nous avaient reconnus, en tout cas ils avaient reconnu Dany, on était en terrasse, c'est le silence absolu dans cette petite rue, puisqu'on se hurle dessus. Je lui dis, c'est impossible de croiser Macron à l'Élysée, puisque ça va faire comme s'il y avait un juge, comme si de notre voyage il se mettait en juge au-delà. Ouais. Mais pourquoi tu dis au-delà? Parce qu'il est élu, c'est le représentant de tous les Français, il y a quelque chose de sacré. On ne peut pas le filmer à l'Élysée. Il dit, mais si, on traverse la France, on va traverser l'Élysée, il va nous montrer... Ouais. Je dis, mais c'est ridicule, il va nous montrer quoi? Une pièce, une autre pièce, tu vas s'asseoir à son bureau, ça va foutre en l'air.
Et là,
de cette engueulade, on l'a mise dans le film, on s'engueule, mais vraiment très sévèrement, c'est moi qui tiens la caméra, Dany essaye de me convaincre, moi j'essaye de l'humilier, de lui sortir les pires trucs, lui aussi, il essaye en disant, mais comment on va faire?
Et là,
tout d'un coup, surprise, au sein du film, on a la solution de comment on a résolu, de notre point de vue, le problème de...
Oui, parce que Emmanuel Macron apparaît, ça c'est...
Non, mais bon, faut pas trop le dire, en réalité, c'est la surprise.
Vous savez bien qu'aujourd'hui, on peut lire, bon, le film n'est pas
disponible. Il compte les points, mais bon.
Mais d'un petit mot, puisque, à propos d'Emmanuel Macron, on a bien compris qu'aujourd'hui, vous le soutenez, que vous appréciez sa politique. Il y a quand même un point de désaccord pour vous, c'est la loi asile-immigration, celle-là, vous la condamnez. Vous la dénoncez, en tout cas.
Il y a des points, c'est ça qui est bien... Pour prendre un exemple tout simple, tout court, vous voyez bien que dans son discours de campagne sur Notre-Dame-des-Landes, il a dit « je respecterai la décision des gens qui ont fait ce référendum mmh. » et après il a dit « je mettrai une commission en place mmh. et j'attendrai 6 mois avant ». Ça prouve quoi ? Qu'il écoute, qu'il entend, qu'il est capable de changer. Bah, c'est exactement pour ça qu'on discute avec lui, qu'on n'est pas d'accord. Il dit Merkel, c'est l'honneur de l'Europe. J'étais contre la déchéance de nationalité. Je suis pour un accueil digne. Ouais. Et il se passe exactement le contraire à Calais, où il y a, au nom de empêcher les points de fixation, ouais. on disperse les mômes, on les envoie du gaz. Il se passe des camps qui sont qu'on n'a jamais vus à Paris, à Porte de la Villette, à Porte de la Chapelle. Effectivement, nous sommes tout à fait en désaccord avec Dany sur cette politique ouais. de non-accueil et cette politique qui fait qu'on met, on assimile maintenant les réfugiés ou les immigrés à des clandestins ou à des délinquants.
En un mot, puisqu'on a terminé, est-ce que vous lui avez vraiment dit à Emmanuel Macron, avec Daniel Cohn-Bendit, on est les meilleurs conseillers parce qu'on a tout foiré?
On lui dit ça aussi, on essaye ouais. de l'impressionner en disant à nous ouais. deux, on a quand même un siècle d'expérience, donc tu es un petit jeune et merci. Ne nous interromps pas.
Merci, c'est la fin de cette émission.